Après l'arrivée de l'enfant, ils s'amuseront régulièrement à se tester l'un l'autre, à formuler des interrogations sous forme de défis. Avant, comment se passaient les journées? Quel était notre emploi du temps? Par jeu, ils essaieront de retrouver la mémoire immédiate de ce passé pourtant déjà loin d'eux, de se glisser un bref instant dans leur ancienne peau de jeunes gens. Ils ne savent plus comment c'était de n'être responsables que d'eux-mêmes. Ils se questionnent, mais ils ne peuvent revivre cet état comme on enfilerait un vieux vêtement retrouvé par hasard. Bientôt, ils verront que l'enfant aussi connaît des phases de retour en arrière, des sursauts nostalgiques. Ils assisteront étonnés à quelques tentatives désespérées de rétrogradation. Pourquoi essaie-t-elle de se glisser dans son premier couffin devenu trop étroit? Cela provoque une crise de rage parce que les jambes ne rentrent plus, que la tête dépasse elle aussi, comme si elle essayait de se cacher intégralement sous un mini mouchoir de poche. L'effort mental qu'il faudrait faire ressemble trop à une tentative d'effacement. Ils ne veulent pas, même en penser, devoir la faire disparaître une seconde. Et pourtant, ils se demandent bien comment était leur vie il y a encore 2 mois. De toute façon, la sidération est trop grande pour arriver à effectuer cette simulation du passé. Leur esprit désormais est occupé par cette sidération. Quelques images arrivent dans le désordre, impressions, bribes rangées sans logique apparente. Il y en a un nombre fluctuant, des empilements, des juxtapositions. Bien sûr, l'enfant petit agit comme un révélateur. Ils pensent à des situations dont ils ne peuvent eux-mêmes se souvenir. Ainsi, mes parents, jeunes mariés, ont effectué ces gestes, ont eux aussi eu peur de mal s'y prendre, ont été inquiets, fascinés, ont appris dans l'action. Ils se sont réveillés la nuit, ont pris sur eux pour essayer de garder les yeux ouverts, ont fait au mieux pour chanter les berceuses d'une voix désaccordée. Eux aussi ont vécu en permanence avec au bout du bras une serviette en papier, un linge ou une éponge, de quoi absorber les fluides ayant fait demi-tour pendant leur progression vers l'estomac, les petites formations visqueuses constellant le plancher, les épanchements issus de gestes encore mal mesurés. Eux aussi ont sans doute récolté à genoux des grains de riz éparpillés par terre. Ils ont failli perdre patience, nous ont prévenus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils se sont vus contraints, malgré leurs idées progressistes et leurs intentions non violentes, à se faire comprendre à la fin, nous administrant une claque. Ils se sont sans doute sentis mal après. Ils ont maladroitement essayé de réparer les gestes impulsifs par des mots. Ils nous ont bercés, consolés. Et nous les avons vus un peu comme des héros. Lorsque le père rentrait le soir avec sa serviette remplie de dossiers, nous courions en hurlant de joie depuis l'autre bout du couloir. C'est celle-là aujourd'hui. Paraissent presque inventées.
Ils sont pris dans le flot. Une intuition lui fait deviner qu'il faudra d'ici peu être en mesure de fournir des explications, un nombre exponentiel d'éclaircissements et d'exposés sur la réalité qui nous entoure. Des réponses claires sur l'attraction des corps entre eux, sur la distribution des conditions de l'atmosphère terrestre, sur le système solaire, le parallélogramme des forces, la perception visuelle de la répartition spectrale de la lumière, des phénomènes qu'elle connaît plus ou moins intuitivement et dont elle a conscience que l'origine scientifique lui échappe. Toutes ces questions lui feront prendre la mesure de son ignorance dans beaucoup de domaines. Ses réponses ne seront pas toujours très claires ni convaincantes, et elle sera troublée par l'opiniâtreté indéfectible de l'enfant, le retour incessant de ses demandes réitérées comme si l'explication fournie n'avait pas satisfait. Son utilisation occasionnelle d'un définitif
comme ça
n'aura pas pour effet de clore l'affaire une fois pour toutes, et ne fera qu'alimenter la cascade d'interrogations. L'enfant aura toujours le dernier mot.
Et pourquoi ?
Cela arrivera plus vite qu'on ne le pense.
C'est une vérité qu'on lui répétera souvent, dans les transports, au marché, dans la rue. Ça va trop vite, profitez-en. Profitez-en, ça va trop vite. Quelquefois teintée d'une nuance amère liée sans doute à des déceptions, il faudrait que ça reste tout le temps petit. Tout de suite, elle voudra ressortir, poser le pied dehors, muni de la poche harnais matelassée, bien fixée aux épaules et autour de la taille, pour transporter la nouvelle arrivante, dont on peut voir les mains flotter dans l'air de part et d'autre, et remuer les doigts comme en apesanteur,
ses extrémités minces, toutes plissées et marbrées aux ongles exagérément longs. Il est prudent d'attendre un mois, au moins, disent la plupart des forums consultés, avant de couper ses jeunes griffes encore trop élastiques. C'est en accomplissant les premières fois cette opération délicate que la mère, soit dit en passant, verra le temps venu de commencer à porter des lunettes. Elle voudra s'élancer à travers les rues et se sentir aussi brave qu'une figure de proue. En franchissant le porche de l'immeuble avant de se retrouver au grand air, elle entendra l'enfant prendre une immense inspiration, comme avant de sauter dans le vide, un son aigu venu du ventre et filant vers le haut, un sifflement pyrotechnique à peine audible au milieu des bruits de moteur, des voix, du bip d'ouverture de la porte. Elle sera seule à entendre ce... que la fonction enregistrée d'un téléphone, même très intelligent, n'aurait sans doute pas pu restituer fidèlement, ni isoler de la rumeur tremblante, ambiante.
Le premier trajet qu'elle fera à son retour de la clinique sera pour aller au grand magasin, rayon hygiène et habillement. Elle arpentera le trottoir de son vieux faubourg devenu trop familier à force de répétition des trajets quotidiens, mais elle sera cette fois dans l'état euphorique d'une voyageuse tout juste arrivée de l'aéroport, débarquée au centre d'une ville et partie explorer à pied les environs de son hôtel, le cœur gonflé d'excitation, enivré par le changement d'air, les impressions nouvelles et la foule animée. Elle verra le soleil se refléter dans les vitrines, les silhouettes des passants se découper en contre-jour, les bacs de marchandises à prix cassés débordant de chaussures. Elle se sentira libre, altière et souveraine en allant au supermarché pour y acheter une gaine de grand-mère couleur chair bien ajustée au-dessus du nombril.
Les petites mains attireront d'autres mains constellées de taches de vieillesse, des pouces fripés, des phalanges tordues par l'arthrose, des annulaires ornés d'alliances portées pour la première fois 50 ans plus tôt, de doigts majoritairement féminins qui viendront prestement établir un contact avec le poignet rebondi, comme pour saisir un peu de sa jeunesse, intercepter une once de ses ondes bénéfiques. Elle aussi un jour répétera cette phrase.
« Ah oui, je sais ce que c'est. »
Signe d'appartenance et de reconnaissance avec le reste des parents. Une formule qu'on prononce en hochant doucement la tête, l'air héroïque et la paupière tendante, d'une façon de se plaindre tout en étant fière, de partager implicitement une expérience que seuls ceux qui sont par là peuvent comprendre. Cela conforte, on se sent moins désemparé.
Ainsi, vous aussi, vous êtes exténuée. Donc je ne suis pas le seul à friser la crise de folie, à avoir senti l'exaspération monter.
Vous aussi, vous avouez.
Elle participera à des conversations où il sera question de l'attraction tactile qu'exercent les petites mains d'enfants, mais aussi le ventre des femmes enceintes. Certaines, catégoriques, se souviendront qu'elles ne supportaient pas. Elles diront
« Les gens se permettaient de me toucher comme si mon corps était public. »
Les passagers dans le métro, de parfaits inconnus, les membres de ma belle famille
me posaient carrément les deux mains sans me demander mon avis.
Elle, au contraire, doit dire qu'elle n'a pas détesté cette soudaine familiarité. Elle était même plutôt flattée qu'on la considère comme une amulette, d'avoir le même succès qu'un pompon de marin ou qu'une table en bois. Elle éprouvait soudain ce dont ne pourront jamais témoigner les gisants dans leur basilique. Le boutoir porte-chance du petit sanglier en bronze, les excroissances des statues, lustrées et polies par d'innombrables paumes. Elle était très émue devant cette fascination primitive pour le corps féminin en état de métamorphose. Le réflexe enfantin de vouloir toucher pour y croire. L'émerveillement était constant, toujours recommencé, comme si ce phénomène, pourtant vieux comme le monde, ne pourrait jamais devenir banal.
Une fois franchi la ligne sans retour vers le monde extérieur, lorsque le futur est passé au présent, l'étonnement continue, mais d'une autre manière, en croisant les regards des passants dans la rue. Elle constate en effet un bond très net du nombre de sourires et d'œillades bienveillantes glanées à la moindre sortie. Un regain d'intérêt qui, avec le recul, lui fait penser qu'on la considérait peut-être comme quelqu'un de louche, de vaguement égoïste et de sans doute peu recommandable. Elle découvre, chez une grande partie de la population, une inclinaison commune à l'attendrissement, une promptitude à distribuer des sourires bienveillants, l'envie d'établir une complicité fugace au milieu de la rue, sur un quai de métro, au café, n'importe où, ou à vouloir développer les échanges par des concours d'imitation et de mimique dont aucune partie ne semble se lasser. Lorsqu'il faudra lever le camp, le parent trouble fête, pressé par un rendez-vous plus ou moins fictif, suggérera d'adresser un « au revoir »
et l'enfant agitera la main encore un bon moment,
le plus longtemps possible, jusqu'à la disparition dans son champ de vision de l'adulte joueur. Il y a toutes sortes de gens, des femmes, des grands-mères, certainement des parents, des grands-pères, des gens dont le visage peu avenant ou assombri par les soucis se transforme d'un coup.
Elle remarque aussi le besoin irrépressible qu'ont beaucoup de gens de vouloir proposer leur interprétation face au cri d'un petit, de vouloir dire pourquoi un enfant hurle. Peut-être leur est-il insupportable de ne pas savoir et de rester passif face à l'expression évidente d'un tourment ou d'un inconfort. Ils essayent au hasard d'avancer les raisons pour trouver un lien de cause à effet.
Il a trop chaud, il a trop froid, il est fatigué, il a faim.
Ce sont toujours un peu les mêmes. Malgré le côté tirage au sort, cela rassure les natures inquiètes. On se sent un peu mieux face au mystère, à l'impossibilité de comprendre. Un antidote pourra forcément remédier à cette crise passagère, par exemple.
Dormir, manger, enlever un vêtement, ajouter une couverture.
On se console avec des diagnostics en ayant l'air de détenir la vérité grâce à un sixième sens et un peu d'expérience. On voit et on devine beaucoup mieux que quiconque, y compris les parents. En dernier lieu, comme un joker, un argument revient que personne ne peut contredire. Il ou elle fait ses dents.